Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radio. Un très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. C'est comme chaque samedi à pareille heure, votre émission littéraire et c'est donc Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui au cours de laquelle nous allons mettre un coup de projecteur mérité sur une maison d'édition iconaise. Ils sont quatre aujourd'hui avec nous. Alors je vais commencer par le créateur et l'animateur de la maison d'édition Temps Impossible. Bonjour Dominique Vallée.
Bonjour.
Alors Dominique Vallée est venu accompagné, j'allais dire, d'un petit morceau de l'écurie des éditions Temps Impossible.
Oui, exactement.
Alors nous avons Marie-Laure Genet. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Sandra Amani, bonjour chère Sandra.
Bonjour Yannick.
Alors Sandra Amani, bien connue me semble-t-il en Bourgogne-Franche-Comté, écrivant depuis fort longtemps tout de même.
Une petite vingtaine d'années.
Bien. Et puis, il y a Joël. Bonjour Joël.
Bonjour.
Alors Joël, vous êtes dessinateur, on va découvrir vos bandes dessinées si besoin. Pour ouvrir cette émission, Dominique Vallée, à quand remonte la création de cette maison d'édition Temps Impossible et pourquoi cette identité et ce nom Temps Impossible ?
En fait, tout remonte à 2007. En 2007, je me promenais sur Internet et je trouve que je suis fan de Philippe Eblé, un auteur de science-fiction qui est paru à la Bibliothèque Verte. Et j'étais sur le site consacré à cet auteur-là. Et j'ai envoyé un petit message pour dire à combien je trouvais le site formidable à son webmaster. En lui disant « tu devrais écrire un bouquin sur le sujet ». Il m'a dit « je ne saurais pas faire, mais toi fais-le ». Depuis ce jour, donc, je me suis lancé dans l'écriture de cette biographie sur Philippe Eblé. Et Philippe Eblé, ses deux premières séries de romans, c'était « Les conquérants d'impossible » et « Les évadés du temps ». J'ai mixé les deux, ça a donné « Temps impossible ». Et par la suite, j'ai publié d'ailleurs des inédits de cet auteur.
Alors Philippe Eblé, c'est quelqu'un qui a écrit surtout dans les années 70-80.
Exactement.
Qui est toujours en vie ou qui n'est plus de ce monde ?
Non, il n'est plus de ce monde, il nous a quittés en 2014.
Temps impossible, impossible au pluriel.
Oui, bien sûr.
Alors, Dominique Vallée, créer une maison d'édition qui, d'ailleurs, publie des bandes dessinées, qui publie des textes en prose. Il y a quelques collections pour le jeune public, collection patrimoine, les bandes dessinées. En fait, Dominique, il serait peut-être pertinent de vous présenter aussi.
De me présenter moi, oui, bien sûr. Bah, je suis un peu un touche-à-tout, donc c'est pas forcément facile à décrire, parce que je suis auteur de bandes dessinées, donc je scénarise, notamment avec mon ami Joël, avec qui on a produit plusieurs albums. Mais je dessine aussi un petit peu. Et après, j'écris des encyclopédies sur la bande dessinée et j'écris de la prose, de la littérature jeunesse. Et bien sûr, j'anime la maison d'édition, donc je suis un peu un touche-à-tout.
Alors cette maison d'édition, pas facile de la faire vivre. Pas de distributeur ?
Non, mais c'est un choix.
Parce qu'un distributeur, ça coûte terriblement cher, voilà. De toute façon.
En fait, c'est un choix. Au départ, on a tenté l'expérience du distributeur et le distributeur nous a méchamment planté, donc on a préféré faire sans et faire un modèle économique qui se passait du distributeur. Et pour l'instant, on va dire que le succès est en rendez-vous. Nos livres se vendent de mieux en mieux. Notre chiffre d'affaires progresse chaque année. Donc franchement, les lecteurs sont au rendez-vous et les auteurs sont plutôt contents. Donc tout va bien.
important aussi, une semaine avant Noël, de dire qu'il y a un site internet où l'on peut effectivement commander tous les ouvrages de la maison d'édition Temps Impossible.
Exactement, donc le site, vous cherchez tempsimpossible.com et vous tombez directement dessus et vous pouvez commander chaque ouvrage. Et en plus, sur cette période de Noël, on a une promotion sur les livres de Sandra, 2 livres achetés, le port est offert.
Est-ce que cette maison d'édition, pour la faire vivre, il faut toujours avoir des nouveautés? Alors, le contexte économique est ardu. On dit que finalement, ce sont les gens de plus de 50 ans qui lisent, mais finalement, il y a quand même un engouement du jeune public. Bon, il y a une différence entre la geste, l'épopée de Fishman. J'adore le petit personnage que vous avez créé, on en reparlera sans doute. Merci. Et puis, il y a Geste Obscène. Alors, Geste Obscène, donc, vous, Dominique, c'est le scénariste, c'est et Joe L., le dessinateur. Alors, j'ai beaucoup aimé cet univers cocasse où se mêlent les anachronismes, où est mis en scène un viking tantôt féroce mais qui peut parfois se faire tirer l'oreille par sa femme, c'est très amusant. La bande dessinée est-elle plus facile à vendre que les livres en prose ou le texte par exemple de Marie-Laure Genet ou ce petit garçon qui effectivement sauve bon. Il y a toute une part de rêve aussi, mais c'est revisiter la cathédrale de Chartres et beaucoup d'explications très intéressantes dans votre texte. On y reviendra d'ailleurs. Alors la BD, Dominique, c'est un secteur vraiment porteur?
Oui, je pense que c'est un secteur qui est assez porteur et c'est vrai que quand on ne nous connaît pas, ce qui est quand même malheureusement souvent le cas, les gens ne nous connaissent pas forcément, on ne passe pas à la télé, on passe pas encore beaucoup à la radio, merci d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un premier contact avec une bande dessinée parce qu'une bande dessinée, c'est visuel, on feuillette un petit peu, on voit si le dessin nous plaît, on rigole à un ou deux gags et le contact est fait. Alors qu'un livre, si on doit lire 3-4 pages, c'est un petit peu plus compliqué.
Combien de publications par année? Et on s'impose un certain nombre ou c'est en fonction des talents nouveaux? Bon, la maison, là, j'allais dire, c'est construite sur des personnes connues, j'allais dire, qui ont pignon sur Salon du Livre en Bourgogne-Franche-Comté. Comment peut-on démarcher Temps Impossible avec un manuscrit ou une bande dessinée?
Alors, en fait, ça se fait principalement avec des gens que je connais, parce que justement, un peu par expérience, je n'ai pas envie de travailler avec des gens que je ne connais pas du tout. J'ai besoin d'avoir un relationnel fort avec la personne, savoir que je vais pouvoir m'entendre avec elle, savoir que si je lui fais des remarques sur son texte, notamment, elle va pas mal le prendre, parce que malheureusement, il y a des auteurs avec qui il est un petit peu compliqué de bouger une virgule du texte initial, et je crois que personne ne peut produire un texte complètement parfait. Je ne revendique pas non plus, d'ailleurs mes textes ne sont pas complètement parfaits, mais j'ai aussi des relecteurs au sein de la maison d'édition, notamment Sandra et Marie-Laure qui sont présents.
Et Sandra Magny est redoutable, j'imagine, au niveau de la syntaxe, l'orthographe.
Oui, mais Marie-Laure est bien pire encore.
Ah. c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, Marie-Laure, c'est quelqu'un de redoutable à ce niveau-là, mais voilà, c'est utile pour améliorer le texte. Mais elle est aussi redoutable avec les textes de Sandra, et on essaye de l'être avec les siens.
Mais vous, Dominique Vallée, c'est vous qui décidez de ce que vous publiez. Il n'y a pas un petit comité de lecture composé des auteurs de Temps Impossible, non ?
Il y a un comité de lecture composé principalement de Sandra et moi. Alors, c'est-à-dire, Sandra ne donne pas trop son opinion sur les bandes dessinées parce que ce n'est pas son domaine, mais concernant les textes, Sandra a un rôle important et elle décide et des fois elle me propose des auteurs quand elle a croisé un auteur. Et globalement, je lui fais confiance parce qu'elle ne se trompe pas non plus, quoi. C'est quelqu'un qui a un goût assez sûr.
Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Laure Genet, donc, qui a fait paraître chez Temps Impossible un texte assez court, mais riche et dense d'ailleurs, parce qu'on revisite aussi le Moyen-Âge, l'architecture de la cathédrale de Chartres. On revisite aussi quelque part les temps bibliques à travers les pouvoirs un peu surnaturels d'un jeune garçon. Votre texte s'intitule « L'Arche en péril ». Joël nous accompagne également. Geste obscène, c'est le titre de la BD, de vos BD, et c'est le nom d'un viking qui effectivement n'est pas politiquement correct. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis Sandra, alors l'actualité de Sandra, il y a pour le très jeune public, c'est le tout dernier celui-ci, Sandra, Sauvons les fées.
Exactement, oui. Très jeune public, on va dire entre 5 et 10 ans. Hein, quand même.
Alors c'est écrit très gros, ça se passe, c'est la magie, c'est les fées, c'est forêt de Carré-les-Tombes. Nous sommes dans Lyon encore.
Tout à fait, c'est une adaptation d'un texte que j'ai publié dans Légendes du Morvan et qui s'intitule Balade au pays des fées.
Avec des illustrations de, alors on dit Stélie Dompierre.
Stélie Dompierre.
Et puis il y a aussi, Sandra, cette année, il y a eu donc Tradition du Morvan, là c'est dans la collection Patrimoine de Temps Impossible, l'histoire de la famille Jacquinot. On aura l'occasion de parler de cette famille au début du XXe siècle, dans un Morvan rural, profond, paysan, rude, mais plein de belles traditions, de superstitions, un Morvan... très polymorphe.
C'est ça.
Et passionnant. On marque une première pause musicale. Sandra, demain, vous êtes à Saulieu, donc en Côte d'Or, mais dans le Morvan, pour une séance de dédicace.
Donc demain dimanche, oui, je serai de 10h à midi à la Maison de la Presse de Saulieu. Et mardi, on sera toujours dans le Morvan, je serai à Corbigny, de 15h à 17h à la librairie La Renaissance.
Alors en fait, les livres, il faut les porter avec soi, il faut être présent dans les salons, il faut sacrifier des samedis, dans les grandes surfaces, dans les maisons de la presse, chez les libraires, des
Alors,
petits sacrifices.
Oui, bien sûr, ce sont des sacrifices, mais ce sont des sacrifices très très agréables puisqu'ils nous permettent de rencontrer nos lecteurs. Mais également le contact librairie, c'est aussi l'aspect commercial, mais un aspect commercial riche, puisque dans notre maison d'édition, c'est l'auteur qui assure sa promotion et qui assure son commerce, on va dire, ses ventes. Et donc chaque auteur est chargé. C'est pour ça que Dominique disait tout à l'heure qu'il ne travaille qu'avec des gens qu'il connaît, parce qu'il nous faut aussi des gens actifs, des gens qui aillent sur les salons et des gens qui n'aient pas peur de contacter les librairies.
Alors, il reste encore une petite semaine pour faire des cadeaux de Noël, alors offrir des bandes dessinées. Moi, j'aime beaucoup les héros ballonnés de Dominique Vallet. On en reparlera. En fait, il s'agit tout simplement de reprendre, de revisiter tout le monde. Alors, de la télévision, des dessins animés, des gens de notre époque, hein, Sandra, les Candy, les héros de notre enfance quand nous regardions Antenne 2.
Les visiteurs de Noël.
Goldorak, Goldorak. Et donc ils se retrouvent enfermés dans une bulle. Ils ont tous subi une déformation physique. Ils sont dodus, gros, ils sont ballonnés, quoi.
Exactement, comme quand on a trop mangé ou quand on est en vieillissant, on a tous l'impression d'être un peu plus ballonnés que quand on était plus jeune. Ben, mes héros, c'est ça, c'est les héros qui ont un peu vieilli, qui sont un petit peu plus gros qu'ils étaient quand ils étaient jeunes et beaux, mais ça leur donne un charme aussi.
Et qui disent des choses très drôles, parce que
ça,
c'est... Non, franchement, aussi, ce qui est intéressant, et Sandra, qui est professeure de lettres, il est vrai que la bande dessinée peut être aussi un très bon support pour la langue. Je ne parle pas de l'analyse de l'image. Bon, une bande dessinée, c'est moins complexe, me semble-t-il, qu'une peinture, mais on peut faire un travail sur la langue à travers l'humour, les jeux de mots, les jongleries langagières. Et il y en a beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup souri et ri parfois. Même le viking est très, très drôle, quand bien même il massacre, coupe des têtes à gogo. Enfin, Sandra, un petit mot peut-être ?
Non ? Oui, moi, je disais que dans mon métier de professeur, pour moi, la bande dessinée est une forme de littérature. C'est vrai que j'ai présenté Fishman à mes élèves. Ils l'apprécient énormément et j'ai même eu justement, suite à ça, une rédaction où je demandais en fait que les élèves me parlent d'un livre qui les a marqués. Donc un de mes élèves qui ne lit pas de romans, a parlé de Fishman et il a inventé, donc Fishman lui avait donné envie d'être costumier plus tard. Donc vous voyez, c'est de toute façon, à partir de chaque livre, on peut créer du beau.
On revient avec vous, Sandra Amani, Anne-Laure, Marie-Laure Genet, pardon, Joël et Dominique Vallée. Première virgule musicale, c'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec toute l'équipe des éditions Temps Impossible.
Mathieu Reynaud, as-tu une image de moi ?
Non !
Intégration de Mathieu à la soirée de Maya.
T'inquiète, je gère. Je lui parle sur Insta.
Vous êtes drôle avec votre iguane en plastique.
C'est gentil. Merci.
J'ai un peu envie de te revoir.
C'est étrange, moi aussi.
Tu viens chez Aymeric ce soir ?
J'y serai, c'est promis.
Tout à l'heure, chez Timothée, j'avais envie de t'embrasser. Aussi peur de tout gâcher.
T'aurais pas dû t'en aller.
Je ressens comme une tension.
La couleur d'une tentation.
Hier, le temps s'est arrêté.
Tu penses que c'est ça la passion ?
Emoji cœur, emoji fleur, emoji pleurs.
Cette fois-ci, ce sont des larmes de bonheur.
Je veux relire nos SMS. Peux-tu redire toutes ces promesses ? Quand je relis SMS, je veux revivre toute la tendresse.
J'ai beaucoup aimé te voir jouer, j'adorais pouvoir chanter.
Viens chez moi demain, Esteban va nous aider.
Un texte qui parle d'amour, cette chanson c'est un peu nous.
Je pense à toi tous les jours, sans toi je deviens fou.
Tu sais qu'en vrai moi j'aimerais trop chanter, moi je dis ça mais sur une instru en mode années 80, avec une voix à la France Gall et tout.
Je veux relire nos SMS, peux-tu redire toutes ces promesses. Quand je relis nos SMS, je veux revivre toute la tendresse.
Attention.
De tes yeux dans mes yeux, le bonheur est jaloux. En cet unique instant qui n'appartient qu'à nous.
C'est très joli Mathieu, j'ai un peu peur je l'avoue. De notre amour insouciant comme une histoire qui se dénoue.
Vu à 11h52. C'est effrayant d'aimer, entre nous c'est différent de toutes les filles que j'ai connues, des histoires d'adolescents. Tout a commencé depuis peu, j'ai envie que ça se termine par. T'es bloqué dans mon cœur, est-ce qu'un jour tu partiras ?
Je veux relire nos SMS, peux-tu redire toutes ces promesses ? Quand je relis nos SMS, je veux revivre toute la tendresse.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes avec le créateur et l'animateur de la maison d'édition Temps Impossible, Dominique Vallée, venu accompagner en grand renfort, parce que c'est un garçon timide, Dominique Vallée, sans doute, avec Sandra Amani, Marie-Laure Genet et Joël. Joël qui est effectivement dessinateur, créateur d'un viking. Que j'ai découvert d'ailleurs, puisque Dominique m'a prêté un très grand nombre de vos BD. Alors, Joël, comment êtes-vous venu à la bande dessinée, au dessin, et en plus, vous dessinez encore dans des fanzines, c'est-à-dire des magazines pour les fanas de bande dessinée ?
Oui, pas des fanzines, oui, des magazines BD, oui, comme des magazines BD qu'on lisait quand on était gamin, comme Hakim, Swing, Captain Swing, des petites BD de kiosque là, qui paraissent encore dans les maisons de la presse. Tous les mois, oui, il y a des petites planches qui paraissent de ces personnages-là. Geste obscène, le viking, mais aussi Blurp, l'homme de Cronenbourg. Et puis Tom Cus aussi, un motard aussi, parce que je fais aussi de la BD sur la moto.
Voilà. Alors Joël, incontournable question, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditrices et auditeurs? Alors, vous résidez dans Lyon?
Oui, je réside dans Lyon, oui, à côté de Joigny, à Champvallon, à côté de Joigny. Oui, ça fait, bah, maintenant, cette année, ça fait 30 ans que je dessine, que je fais de la BD, quoi. En 94, j'avais sorti une BD sur la JOCR avec la préface de Giroux chez un éditeur. Voilà. Et puis, donc, depuis, j'ai sorti à peu près une dizaine d'albums, dont Geste Obscène le Viking, dont trois albums qui s'appellent Bécane aussi. J'ai participé aussi à des collectifs qui sortent en ce moment, là, qui sont d'actualité, qui s'appellent Les Bikers ont du cœur, donc qui sont édités avec 80 dessinateurs qui ont abandonné leurs droits pour une association pour les enfants malades, donc, qui s'appelle Les Bikers ont du cœur. Voilà. Donc il y a deux tomes de sortie avec des dessinateurs comme Margerin, plein de dessinateurs professionnels, des pointures, et puis des dessinateurs un peu moins connus comme moi, et puis certains autres. Voilà.
En menant quelques recherches, on vous êtes répertorié sur un grand nombre de sites de bandes dessinées, donc la notoriété de Joël est incontestable.
En 30 ans quand même, on a réussi à se faire connaître, puis je fais beaucoup de salons, beaucoup de concentrations moto, enfin je fais pas seulement que les salons du livre ou de la bande dessinée, je fais d'autres manifestations où je suis présent pour dédicacer aussi. Oui.
Alors Joël, en 1993, vous avez sorti une série dont le titre m'a beaucoup interpellé.
Oui.
La série s'appelle Chiotte.
Oui, c'est.
Alors
c'est...
de quoi s'agit-il? Bon, je sais, mais.
C'est de la parodie là. C'est pas mes personnages à moi là. J'ai repris les personnages qui. Quand je lisais la BD, je me disais, on voit jamais un personnage Tintin, Astérix, Lucky Luke, jamais ils vont aux toilettes. Pourtant, tout le monde va aux toilettes et j'ai commencé à dessiner les principaux quoi, comme Tintin, Astérix, Lucky Luke, Spirou, tout ça aux toilettes.
Donc vous les représentez sur le trône?
Comme si on ouvre la porte. Et on les trouve là devant, soit assis, soit debout, mais dans les toilettes, quoi. Donc voilà, j'ai dessiné tous ces personnages, tous les personnages qu'on connaît, les Schtroumpfs, Spirou, Mickey, tous les personnages de la BD humoristique, on va dire, aux toilettes, voilà.
Alors, quand on commence à donner naissance à un personnage, je pense donc à Geste Obscène, votre viking, y a-t-il un moment où on le laisse tomber, c'est-à-dire où on n'a plus d'inspiration, où on change de registre ou d'univers? Vous avez parlé de la moto, par exemple, mais...
Pour Geste Obscène le Viking, par exemple, même si moi, j'ai pas beaucoup d'idées, maintenant, j'ai un scénariste, puisque Dominique Vallet a les idées, donc j'ai plus besoin d'avoir les idées, j'ai plus qu'à dessiner maintenant. Pour la Tom Q, ce personnage, pour les albums Bécane, là, c'est autre chose. Je suis motard aussi, donc les anecdotes, j'en ai au jour le jour, quoi. Donc, je les garde, je les note, je les amplifie, et puis voilà. Donc, on arrive toujours à avoir des idées.
Et le fait que Dominique Vallet ait créé sa maison d'édition, Temps Impossible, pour vous, c'est avantageux?
On ne dit pas.
pour l'avenir.
Oui, non, mais pour
d'avoir un copain qui a une maison d'édition.
Oui, et puis pour la diffusion, et puis pour oui, c'est toujours intéressant. De toute façon, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc il a eu raison de monter sa propre maison d'édition et puis de bosser là-dessus, quoi.
Alors Joël, avec votre viking, Geste Obscène, alors il est redoutable. Alors c'est amusant parce qu'il y a d'autres vikings qui ont marqué notre jeunesse. Bon, moi je me rappelais surtout du petit dessin animé, et Sandra, vous devez vous en souvenir, Vic le viking.
J'étais pas née.
Vous n'étiez pas né. Vic le viking. Il y avait Agar du Nord que moi je le,
oui.
Alors, lui, je
le
voyais Nord, oui. Me semble-t-il oui. Dans le journal de Vic. C'est cela.
Agar
du Nord.
Je suis
pas un grand connaisseur de BD, mais j'aimais beaucoup.
Oui.
Et puis il y avait aussi Torgal.
Voilà, il y a Torgal.
Oui. C'est Torgal, plus sérieux.
C'est plus sérieux Torgal. Mais Agar du Nord, c'est vrai que moi je lisais aussi étant gamin, et c'est pas. Ça peut m'avoir aidé à créer le personnage, oui, parce que bon, je suis déjà fan des Vikings en général, dans l'histoire de France et autres, mais le fait de l'avoir créé, bon, moi j'ai pris, c'était un copain à moi qui ressemblait un peu à ça en vrai. Ah oui. Qui faisait 1m90, 140 kilos, une barbe comme ça, une barbe énorme et tout, des cheveux longs pareil. Et du coup, je me suis inspiré de lui pour faire le personnage. Voilà. Et le nom, j'ai pris un nom en consonance danoise, comme ils finissent tous en scène, les noms, qui veut dire fils de. Donc là, j'ai fait un jeu de mots avec geste obscène, bien sûr, mais on trouve d'autres jeux de mots dans la BD où il y a Robert Hossein, Saddam Hussein,
Tenue de scène,
Vitry-sur-Seine, voilà.
Et bien sûr, il y a le Dracard avec la proue, la tête de dragon, oui. Bien sûr. Alors, ce qui est amusant, c'est que votre Viking va. Alors, j'adore les anachronies, c'est très très drôle. Ça demande aussi un petit peu de culture.
On peut se permettre dans la BD, voilà, oui, bah il y a des références à certains films, certains livres, certains moments de l'histoire de France, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anachronismes, c'est un peu mélangé, mais on peut se permettre ça dans la bande dessinée, c'est ça qui est bien.
Alors il y a beaucoup de têtes qui sont tranchées, puisque votre Viking, geste obscène,
c'est la vie courante, menu, ça, les têtes tombent souvent,
c'est vrai,
la vie de tous les jours.
En tout cas, beaucoup de jeux de mots, par exemple, il y a un moment, geste obscène est au bord d'un océan, et il y a une sirène à deux tons. Mais THONS, alors l'orthographe aussi, c'est ça qui est amusant, c'est que l'orthographe bien sûr permet c'est un barbare assumé, quoi.
C'est le barbare
dans toute sa splendeur,
le vrai barbare, voilà.
Oui, qui veut couper les têtes des petits moines,
il coupe la tête même quand il faut pas, voilà.
Oui. Des fois ça va trop vite,
pas des moines, de tous, hein, même des fois des concurrents.
Début octobre dernier, j'animais une table ronde au Salon du Livre de Blanzy avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Duff.
Ah oui, Duff, Philippe Duff, oui, c'est un ami, oui. Depuis, il a commencé la BD en même temps que moi, on a dû commencer un an d'écart, on s'est rencontrés, c'est un des premiers dessinateurs que j'ai rencontré, et moi je suis son premier dessinateur qu'il a rencontré sur les salons, et depuis on est amis, on s'est revus là au Salon de Migène il n'y a pas très longtemps.
Sandra Amani.
C'est très curieux d'ailleurs, puisque Duff a été également le premier auteur que j'ai croisé en 2001 au Salon du Livre d'Autun. Et c'est devenu un ami aussi.
Alors Duff, lui, il n'est pas dans le monde des Vikings.
Hein,
il y a son chien Freeze, et puis c'est l'univers médical, puisque lui-même est médecin, et c'est très drôle aussi. Alors il y a cet aspect, d'ailleurs Duff le disait, il dit, moi mes BD, elles sont dans un esprit très rabelaisien. Finalement, même si le Viking est très largement antérieur au XVIe siècle, il y a quelque chose de très rabelaisien, notamment le fait de tous ces membres qui sont découpés. Je pense beaucoup à Frère Jean des Entomures, par exemple, chez Rabelais.
Quand je l'ai créé, Duff était là quand je l'ai créé, parce que je l'ai créé en fin de compte sur un salon. On s'amusait à se faire des petits dessins, on s'ennuyait un peu, un salon où il n'y avait pas grand monde. On faisait des petits dessins, et comme Duff à l'époque, il faisait un petit fanzine qui s'appelait L'Intestin Libéré. C'était une feuille de
tout
chou.
Un programme.
Tout un programme. C'était une feuille de chou. On mettait des BD un peu trash. Donc, il demandait à tous ses potes dessinateurs de faire ça. Et j'ai créé Geste Obscène pour L'Intestin Libéré au départ. Donc, Duff, quelque part, a participé à la création de Geste Obscène, le Viking.
Mais il faut une précision quand même, que j'ai repris les scénarios de Geste Obscène, mais c'est bien Joe qui a créé le personnage. Hein.
D'accord. Alors, si on veut se procurer les BD de Joël, comment procéder? Vous avez vous-même un site, on vous contacte, comment faire? On passe par Temps Impossible, même si c'est pas Temps Impossible qui a édité Joël.
On peut passer par Temps Impossible, on peut passer directement sur mon site aussi, en envoyant un mail sur mon site. C'est pas moi qui gère le site, mais les mails arrivent chez moi. Et puis sinon, on les trouve aussi sur Rakuten. Trouve sur internet, ou sinon le mieux c'est de venir sur les salons où on dédicace
et faire attention, parce que sur internet un Joël renvoie quand même plutôt à un musicien québécois, donc il faut prendre le Joël dessinateur de bande dessinée, il s'agit de ne pas se tromper de Joël.
Et oui, il y a un Joël aux États-Unis et un au Canada,
et au Canada, alors ils sont plusieurs, beaucoup de Joël.
Et il y a un Joël avec un autre orthographe qui est musicien en France mais moins connu, qui était guitariste de groupe Oberkampf dans les années 70-80.
Merci Joël. On va, si vous le voulez bien, marquer une nouvelle pause musicale. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Marie-Laure Genet, Sandra Amani, Joël, que vous avez entendu de sa voix de Viking, une voix qui vient de très loin, et le créateur et animateur de la maison d'édition Temps Impossible. On se retrouve dans une poignée de minutes. Je vais donner la parole à nos deux dames qui d'ailleurs sont fébriles à l'idée de s'exprimer aujourd'hui. aujourd'hui, une semaine avant Noël. Et donc Sandra, demain, dimanche 19 décembre, à partir de 10h, Maison de la Presse à Saulieu, juste en face du Café Parisien.
Tout à fait. Un café d'ailleurs très très... j'aime bien. Café...
historique, hein, très classé, qui doit dater des années 1830.
Oui, on est bien au Café Parisien. Je sais pas, c'est une ambiance.
C'est un café qui a une âme.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
On se retrouve juste après la pause musicale.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous être fidèles en cette fin de matinée sur Radion. Nous retrouvons nos invités aujourd'hui. Dominique Vallée, le créateur de la maison d'édition Temps Impossible, impossible au pluriel. Hein. Il y a également Sandra Amani, Joël et Marie-Laure Genet, à qui je vais demander de nous dire un peu d'où elle vient, ce qu'elle fait, qui elle est. Hormis le fait, information fiable et certaine, c'est que vous êtes l'auteur de L'Arche en péril, l'explorateur des vitraux. J'allais dire un petit texte en prose édité chez Temps Impossible. Alors, qui êtes-vous, Marie-Laure Genet?
Alors moi, je suis une auteure très novice, je n'ai pas du tout l'expérience de mes camarades. Ça fait 4 ans que j'écris, on va dire, de manière assez sérieuse. J'habite l'Essonne, je suis professeure d'anglais dans un collège parisien. Et je suis, comme Dominique, j'ai été une grande fan de Philippe Eblis depuis ma plus tendre enfance, depuis l'âge de 8 ou 9 ans. J'ai découvert le premier roman de Philippe Eblis et ça a été pour moi une véritable révélation. Après, je suis passée bien sûr à autre chose et je me suis rendu compte qu'une nouvelle maison d'édition publiait des récits inédits de Philippe Eblis donc Dominique Vallet, bien sûr. J'ai commandé tout de suite les textes que je n'avais pas. Et à la mort de Philippe Eblis en 2014, il était très âgé, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'ai pensé pendant quelques années que ses héros, eh bien, en quelque sorte, étaient morts avec lui, et ça me chagrinait beaucoup. J'ai décidé en 2017 de prendre la plume, et j'ai écrit un roman que Dominique a lu et a apprécié d'après ce qu'il m'en a dit, et j'ai repris les personnages de Philippe Eblis et j'ai écrit ce roman. Alors ce roman n'a pas été publié pour le moment parce que c'est un petit peu compliqué, il faut avoir l'accord des ayants droit pour qu'il soit publié. En attendant, j'ai sympathisé avec Sandra Mani, qui est devenue une amie.
On ne peut que sympathiser avec Sandra
Mani.
Mais
plus que ça, on est vraiment devenus très très amis. Et à l'initiative de Sandra, j'ai commencé à écrire ce petit livre, L'Arche en péril, qui se passe donc dans la cathédrale de Chartres, qui n'est pas très très loin de chez moi. Et bon, j'ai eu la chance qu'il plaise à Sandra, qui a fait dessus un travail extraordinaire, qu'il plaise à Dominique, qui a fait un travail dessus tout aussi extraordinaire, pour qu'au final, il soit en mars dernier publié.
Alors, c'est l'histoire... Oui, Sandra ?
Et étudié en classe de 5e.
Alors, en plus, je pense que c'est un texte totalement délicieux pour les enseignants et pour les élèves, parce qu'il y a... Ça touche le jeune public. Ce petit garçon... Alors, l'action se passe en 76.
Ça se passe en 78.
78, pardon. Et il a 9 ans. Il s'appelle Zéphirin.
Alors, il a presque 11 ans.
Alors, écoutez, moi, il fête bien ses 9 ans en 1976.
Non, il y a un flashback, en fait.
Ah, alors, c'est moi qui ai
mal.
Ça
se passe en 78. Et en 78, il a un flashback parce que sa mère est malade. Donc, il se remémore son anniversaire en 1976. C'est 9 ans.
Et sa maman est atteinte, alors, d'une maladie rare, tout de même. Elle est atteinte du...
C'est la chorée de Huntington.
Oui. Et en fait, c'est un trouble du caractère ?
Non, c'est une maladie dégénérative. En fait, la personne se met à avoir des mouvements saccadés. C'est très douloureux aussi. La personne se met à parler de façon tout à fait hachée, incontrôlable. Et ce qui est très triste dans cette maladie, c'est qu'elle est héréditaire. Et quand on a un parent qui l'a, on a un risque sur deux de développer cette maladie.
Alors, notre petit collégien Zéphirin va régulièrement... saluer un ami plus âgé que lui, hein, qui est presque un jeune adulte, qui se prénomme Leandro, et qui est l'organiste de la cathédrale.
Tout à fait.
Et alors après, poser un petit peu le décor, parce que c'est une visite aussi de cette cathédrale, et surtout des vitraux. Rappelons, c'est l'explorateur des vitraux, l'Arche en péril.
Eh bien, le jour où Zéphirin vient rendre visite à Leandro, ce jour-là, les eaux se mettent à monter autour de la cathédrale de Chartres. Et Zéphirin ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et Leandro révèle à Zéphirin que, en fait, les vitraux recèlent des secrets. C'est-à-dire que quand un vitrail est abîmé ou qu'il n'a pas été entretenu, qu'il n'a pas été restauré, les vitraux emblématiques, hein, pas tous les vitraux, eh bien, cela peut conduire à une modification du passé et à une catastrophe. Là, on parle du vitrail de Noé dans la cathédrale de Chartres. Le vitrail de Noé, ben, en 1978, il était dans un état absolument lamentable, puisque la restauration, elle est récente. Et donc, suite à ce vitrail qui se dégrade, eh bien, le déluge va revenir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau déluge, les eaux vont monter. Et au moment où Zéphirin se dit que tout est perdu, il comprend, d'après les explications de Leandro, qu'il est un explorateur des vitraux, qu'il est destiné à rentrer dans le vitrail pour revenir à l'époque du déluge et pour sauver le monde, pour empêcher en fait l'arche d'être foudroyée.
Et c'est magnifique parce qu'il rencontre la famille de Noé, du
Absolument.
Patriarche.
Les trois fils, voilà. Alors, les trois fils existaient, hein. Je me suis basée sur des choses... Les femmes, je les ai inventées, les femmes des trois fils, parce qu'il n'y a rien, à part pour la femme de Japhet, mais il n'y a rien dans la Bible qui nous dit comment s'appelaient les femmes des trois fils. Voilà, donc il y a à la fois des choses qui sont... qu'on trouve réellement dans la Bible, et puis des choses que je me suis permis d'inventer parce que parce que sinon, bah voilà, et ça n'existait pas.
Et Marie-Laure Genet, je me suis cultivée parce que vous parlez dans votre histoire du clou de Saint-Jean, et je pense qu'il existe réellement ce clou planté dans le dallage de la cathédrale de Chartres.
Tout à fait. Tout ce qui est dans la cathédrale de Chartres existe réellement. En fait, j'ai eu un déclic, une des nombreuses fois où j'ai visité la cathédrale, je suis allée acheter un petit dépliant à 1 € pour le jeune public. Et sur ce dépliant, il y avait plusieurs éléments. Il y avait le vitrail de Noé, il y avait le clou de Saint-Jean, il y avait bien sûr le célèbre labyrinthe de Chartres qui est connu mondialement. Et j'étais dans d'autres écrits à l'époque parce que j'ai aussi un roman en cours, mais ce jour-là, ça a été totalement un déclic. C'est-à-dire que les différents éléments que je voyais sur le petit dépliant se sont agencés dans mon esprit. Et en fait, l'histoire est née comme ça. L'histoire est arrivée, du moins les grandes lignes de l'histoire, elles sont arrivées en quelques minutes. Et après, bien sûr, j'ai développé, mais c'est vraiment ces différents éléments qui ont été déclencheurs.
Alors Marie-Laure Genet, finalement, vous avez trouvé une maison d'édition accueillante.
Tout à fait.
Et donc, ce texte est étudié dans certaines classes, dans certains collèges de Bourgogne, en région parisienne, où on peut révéler.
Alors, il a été étudié donc dans 2 classes de 5e de Sandra, au collège de Chablis. Et il a aussi été étudié dans 2 classes de CM2 d'une école primaire parisienne, l'école Vendresanne.
École publique, pas catholique, parce que l'enfant est quand même dans une école catholique.
Oui, mais ça n'a pas du tout gêné, parce qu'il n'y a aucun prosélytisme religieux, en fait, dans mon livre. Et donc, c'est
le catholicisme ne me dérange absolument pas.
Non, mais ça n'a pas du tout été ressenti.
Effectivement, vis-à-vis du jeune public, aujourd'hui, il y a tellement sujet à caution qu'il y a une liberté parfois un peu surveillée.
Alors, j'ai la chance d'avoir jamais eu vraiment de remarques par rapport à ça.
Mais j'ai un peu veillé au grain par rapport à ça, parce que justement, j'ai voulu que le texte ne soit pas justement trop prosélyte, que ça ne puisse pas choquer les gens qui ne seraient pas catholiques, qui peuvent mettre, moi qui suis athée par exemple, j'ai voulu que ça puisse être lisible par tout le monde.
Mais c'est un très bon support culturel.
Mais c'est un support culturel intéressant, effectivement.
L'enseignante réclame la parole, Sandra Amani.
Justement, par rapport à ce côté religieux, moi j'ai posé la question à mes élèves, puisque Marie-Laure prend toutes les libertés Et donc, mes élèves ont dit « Ah non, 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 ça ne nous gêne pas, madame, parce que de toute façon, le programme de 6e, c'est la
bien
mythologie. »
Effectivement, la mythologie et aussi les textes fondateurs, la Bible,
Coran. Et donc, pour eux, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, pas de problème par rapport à cet aspect religieux.
Et donc, là encore, Dominique Vallet, disponible en commande via le site internet de la maison Temps Impossible. Ou alors dans les prochains salons. Bon, là, c'est l'hiver, les salons sont
et
un peu plus rares.
Et dans quelques librairies aussi.
Oui, alors il est en librairie aussi. Il est en librairie à Chartres. Il est à l'Esperluette. Il est à, voilà, différentes...
L'espace culturel d'Auxerre, très bientôt.
Bon.
Il est à l'espace culturel Leclerc aussi, de Chartres.
Il faut dire aussi qu'un grand nombre de points de vente, un grand nombre de librairies ont fermé. En Bourgogne, en Franche-Comté, et les éditions de l'Armançon l'ont payé par exemple fort cher, une maison d'édition qui avait plus d'un quart de siècle d'existence. Dominique Vallet, un petit mot sur justement la difficulté de trouver des points de dépôt, de diffusion, et tous les libraires ne sont pas forcément accueillants aussi.
Mais c'est clair que c'est plus facile de placer un livre de Sandra qui a pignon sur rue, qui est connu depuis un certain temps et qui est une très bonne vendeuse, que de placer le texte de Marie-Laure ou même un des miens, parce qu'on est moins connu et donc le libraire, il nous regarde il est un peu plus méfiant parce qu'il se demande s'il va pouvoir vendre nos livres. C'est pas une histoire de qualité de livre, mais c'est une histoire d'être connu dans un monde médiatique, et quand on n'est pas connu, ben, pour le grand public, souvent on n'existe pas. Et c'est pour ça que les salons servent aussi à défendre nos livres, parce que là, on peut expliquer aux gens pourquoi ce qu'on propose est intéressant. C'est un moment important. Je pense que l'Armançon a aussi payé le fait de ne se fier qu'au circuit traditionnel, donc les libraires, un peu les salons, mais pas tant que ça. Et pas de site internet où on pouvait acheter les livres de l'Armançon, je ne crois pas en tout cas.
Si, ils l'ont eu, mais peut-être
tardivement. Alors.
Peut-être un peu tardivement. Ouais.
Et donc, ils ne sont peut-être pas assez adaptés, on va dire, à l'ère du temps. Enfin, je me trompe peut-être, hein, je ne vais pas dans les secrets des lieux non plus.
Donc je rappelle le titre du court roman. J'ai envie de dire que c'est un opuscule, mais ce n'est pas du tout dépréciatif dans ma bouche.
Mais il va y avoir une suite.
Et oui,
il va bientôt paraître, c'est une série en fait, l'explorateur des vitraux. Voilà.
À suivre est-il écrit. Donc L'Arche en péril, l'explorateur des vitraux de Marie-Laure Genet chez Temps Impossible. Dominique Vallée.
De la collection Court-Lettrage, qui est une collection justement où chaque ouvrage fait 50 pages et qui est vendu à un prix modique. Et donc c'est toute la collection qui est comme ça. C'est fait exprès parce que souvent les gens ont tendance à dire j'ai pas le temps de lire parce que les livres sont trop longs. Là on a dit on fait des livres courts et le deuxième reproche, les livres sont trop chers. Donc on a fait des livres courts et pas chers. Donc Sandra en a sorti un, moi j'en ai sorti un, j'en sors d'ailleurs bientôt un deuxième. Et d'autres auteurs nous ont rejoints sur ce créneau-là, comme Alain Lequien par exemple, que je crois qui est passé dans ton émission. Et d'autres auteurs, et Alain Blondelon aussi qui en a sorti un. Et donc tous ces gens-là nous ont rejoints en nous proposant des textes volontairement courts pour que un lecteur peu averti n'ait pas peur de s'y plonger.
Et faire court c'est difficile en littérature, hein.
Et c'est pas toujours facile, effectivement. Des fois, on est obligé de se restreindre. Marie-Laure, d'ailleurs, a un peu de ce problème à ce sujet-là, apparemment, sur son deuxième.
En tout cas, petit prix, mais grande qualité. Très joli texte, L'Arche en péril de Marie-Laure Genet. Elle trépigne, elle s'impatiente. Sandra Mani, que nos auditrices et auditeurs connaissent bien. Il y avait longtemps que vous n'étiez pas revenu devant le micro de Wagon Livre sur Radio. Je dois dire aussi que je suis fortement sollicité. J'essaie quand même d'élargir toujours l'éventail des...
Et tant mieux que vous soyez sollicité.
Merci Sandra. Alors Sandra, le Morvan vous colle indéniablement à la peau.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Morvan, c'est ma terre...
C'est l'origine, quand même.
C'est mes origines.
C'est la Roche-en-Bronnie.
C'est mon enfance.
C'est ça. Hein, c'est...
Oui, c'est vrai.
Alors, tradition du Morvan, l'histoire de la famille Jacquinot. Et alors, c'est l'histoire d'une petite paysanne. Nous sommes au tout début du XXe siècle.
Avant la guerre de 1914, oui.
Marie Bertin, tout à fait. Parce qu'en plus, c'est émouvant. Finalement, on se dit que c'est ce monde paysan qui va se retrouver dans les tranchées et qui ne reviendra parfois pas du tout dans les chaumières morvandelles, oui. Ou qui reviendra terriblement meurtri de par les horreurs de la guerre.
Bien sûr, c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter avant la guerre, parce que ce n'était pas le propos de parler justement de ces horreurs et des suites que la guerre a eues dans le Morvan.
Alors notre petite héroïne, jeune femme, Marie Bertin, donc nous sommes dans la Nièvre, on est à Fachin.
Cœur du Morvan.
Pas très loin de Château-Chinon.
C'est ça.
Et elle observe déjà ce beau jeune homme du village. Elle va épouser Louis. Et alors Sandra, vous racontez, finalement c'est très sociologique et historique par certains aspects. Il y a la fiction, l'invention, mais cette famille Jacquinot, déjà comment retient-on le patronyme? C'est un patronyme qui existe, on l'invente.
Ah oui, tout à fait, c'est un patronyme très très courant dans ce...
Il y a beaucoup de Jacquinot réellement dans le Morvan.
Oui, dans le Morvan et surtout du côté de Château-Chinon, dans la Nièvre, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, un monsieur d'ailleurs, c'était très touchant, qui m'a demandé, qui m'a dit, moi j'ai un ancêtre qui s'appelle Jacquinot, peut-être que vous parlez de cet ancêtre-là. Et en fait, non, pas du tout. C'est parce que j'ai voulu choisir donc des prénoms très courants et également un nom qui soit vraiment répandu dans le Morvan.
Préface d'un peintre que vous affectionnez.
Oui, un ami,
Pierre Labrousse, qui lui aussi... termine sa préface en disant « Pour bien décrire et faire vivre un pays, il faut le connaître par cœur et l'aimer. Toi, Sandra, tu y parviens merveilleusement bien. »
Oui, c'est un beau compliment.
Ce qui est aussi extrêmement intéressant, ce sont toutes les traditions, les légendes. Alors, par exemple, au moment de la mort du fermier. Par exemple, j'ai été très surpris d'apprendre qu'on allait couvrir la ruche et que même les abeilles d'une ruche devait prendre le deuil symboliquement.
Oui, quand quelqu'un...
Mais où allez-vous trouver ces informations, Sandra?
Alors...
Que lit-on pour se documenter?
Drouillet. On lit les livres de Monsieur Drouillet et au moins 10 tomes. Et donc, préalablement, j'étais allée aux archives de Dijon, parce que ce livre, il est quasiment introuvable
Jean
maintenant.
Jean Drouillet, c'est ça, Sandra, qui est mentionné à la fin, folklore du Nivernais et du Morvan.
C'est ça, 10 tomes.
En 10 volumes.
Oui, mais je ne me suis pas servi des 10 volumes.
Mais qui est un texte, des textes anciens du
début oui, du... Ah oui, même avant le début du siècle, il me semble que ça date des années 1850-1880. Et donc ce monsieur a répertorié mais toutes les traditions, toutes hein, et superstitions présentes dans le Morvan à cette époque.
Et ce qui est surprenant, par exemple, lorsque ce fermier est sur son lit de mort, on lui met une pièce dans la main, rappelant ainsi finalement un geste qu'on retrouvait aussi dans l'Antiquité.
C'est ça, le rite de passage.
Oui.
Le rite de passage où avant que les morts étaient censés traverser un fleuve, le Styx, pour parvenir aux enfers. Et donc, on leur mettait une pièce dans la bouche ou dans la main, je ne sais plus.
Là, votre texte, c'est dans la main. Mais je crois que c'est dans l'Antiquité.
Mais je pense que c'est dans la bouche, dans l'Antiquité. Bon, c'était un droit de passage, en quelque sorte.
Alors, il y a des aspects aussi beaucoup plus plaisants et rieurs au moment du mariage, par exemple. Il y a une expression, c'est « aller aux habits ». Parce que finalement, la mariée allait choisir sa robe, mais le marié ne découvrait la robe que le jour de la cérémonie officielle de mariage.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est un peu toujours la tradition maintenant dans certaines familles. Le marié ne doit pas découvrir la robe avant le grand jour.
Et comme... alors, qu'est-ce que c'est que cette tradition qui consiste à poser des quenouilles en bord de route pour accompagner le cortège de jeunes mariés?
La quenouille, c'est le symbole du foyer, la femme qui tisse. Et donc, une femme pour se marier devait admirablement savoir filer. C'était ça. La base, on devait filer et donc poser des quenouilles le long du chemin, ça veut dire que cette dame, cette jeune femme qui se marie va être une bonne femme au foyer, une bonne mère aussi.
Alors une bonne mère et une bonne danseuse aussi, parce que finalement, Sandra, vous répertoriez, alors il y a la bourrée, il y a la sauteuse, le branle, le Caliburden, Chibreli, oui, la danse du ballet, la danse du tapis.
Dominique Vallée,
est-ce que vous avez déjà vu Sandra Amani pratiquer la danse du tapis
fait. Elle a tout expérimenté avant de finaliser son livre, c'était obligatoire, sinon je ne prenais pas.
Et ce qui est très beau.
J'ai des vidéos d'ailleurs qui les prouvent.
Nous les attendons avec impatience sur les réseaux sociaux. Il y a la trempée, Sandra. Alors, c'est du vin blanc sucré et épicé dans lequel on trempait de grosses tranches de pain.
Oui, mais...
parce que c'est un livre savoureux aussi.
Oui, et la trempée, c'était le rite qui existe sûrement aussi maintenant dans les mariages, le rite du pot de chambre. Vous avez entendu parler, Yannick, je pense, du rite du pot de chambre.
Non.
Alors, les mariés vont se coucher vers minuit et vers 5 heures du matin, quand tout le monde a bien fait la fête, les jeunes du village vont les réveiller dans un endroit qui a été préalablement tenu secret en leur amenant un pot de chambre que l'on appelle également la trempée. Et après, chacun... alors, il y a du champagne dans ce pot de chambre. Mais à l'époque, ce n'était pas du champagne. Du champagne, enfin, ça doit être absolument abject, ce qui se trouve dans le pot de chambre. C'est des mélanges. Hein. Et donc, les mariés doivent célébrer leur première nuit, la nuit de noces, en buvant la trempée.
Alors, Sandra, bon, on ne l'a peut-être pas beaucoup présentée, mais auteure depuis plus de 20 ans... enseignante, toujours en poste dans le Chablisien?
Oui, tout à fait. Je m'y plais.
Heureuse avec ses élèves. Alors, le dernier de Sandra Amani, c'est le plus frais, c'est le plus récent, avec donc des illustrations de Stélie Dompierre, Sauvons les fées, chez Temps Impossible. Il y a les légendes de Puys et Forterre, ça aussi, chez Temps Impossible. Et puis donc, Tradition du Morvan, histoire de la famille Jacquinot. Sandra, il y a un moment, vous allez complètement épuiser le sujet morvandiau, du folklore morvandiau, des oui. légendes, non ?
Oui, je pense que c'est déjà fait. C'est pour ça que maintenant, et beaucoup sur les instances de Dominique, j'ai écrit les légendes de Puisaye-Forterre. Je ne connaissais absolument pas la Puisaye, c'est Dominique qui m'a permis de la découvrir. Et là, maintenant, je me suis dirigée vers le Pays d'Ot.
D'accord. Et les légendes de Puisaye-Forterre, Sandra, très jolie couverture, reproduisant une peinture de quelqu'un que vous estimez beaucoup.
Aussi, tout comme Pierre Labrousse, qui lui a illustré mes deux tomes de légendes du Morvan, de J.P. Vierenne, un peintre déformiste.
Alors, il faut dire aussi, Dominique Vallet, que Sandra vend bien dans le Morvan, dans la Nièvre, dans la Côte d'Or, dans Lyon, et la Saône-et-Loire, parce que ces textes concernent une littérature vraiment régionaliste, enfin, les légendes du Morvan. Sandra serait peut-être difficilement vendable, si je puis me permettre, en Bretagne, en Alsace, en Normandie, par exemple, ou en Corse.
Détrompez-vous, on a régulièrement des commandes de gens qui nous achètent, les gens du Morvan, les gens de Puisaye, qui viennent des quatre coins de la France, voire de l'étranger. J'ai été au téléphone juste avant de partir avec quelqu'un qui venait de région parisienne et qui voulait commander justement les gens du Morvan.
Beaucoup de lecteurs de Paris ou de la région parisienne.
Oui, énormément.
Et qui ont une attache ancienne avec le Morvan.
Pas forcément.
Non ? Curiosité.
Parfois oui, mais des fois aussi juste l'intérêt pour les légendes. En fait, les deux publics principaux, c'est les gens du Morvan et les gens qui adorent les légendes, qui prennent les légendes de toutes les régions de France.
Oui.
J'ai mon public maintenant. Donc, la plupart des gens du Morvan ne connaissent pas forcément la Puisaye. Et ça y est, maintenant, mes lecteurs achètent plutôt des légendes que des légendes du Morvan, vous voyez. Et je sais que le Pays d'Ot, je vais avoir mon public également qui va me suivre.
À suivre donc sur le site des éditions Temps Impossible, animé par Dominique Vallet, créateur de cette maison d'édition que nous sommes heureux d'avoir accueilli aujourd'hui, parce que nous sommes au terme de l'émission, le temps passe très vite.
Oui. Déjà ?
Je rappelle que c'était donc Dominique Vallet, créateur de la maison d'édition Temps Impossible, qui nous accompagnait aujourd'hui, venu en grand renfort avec Sandra Amani, Marie-Laure Genet et Joël. Et donc, leurs ouvrages disponibles, bon, par cet outil formidable tout de même, incontournable, hein, l'outil Internet, maison Temps Impossible, mais bien le S à Impossible, Temps Impossible, on trouve le site sans difficulté.
Sans difficulté.
Et on peut commander, payer en toute sécurité, et ça aussi c'est important de faire vivre une maison d'édition qui est amenée à encore grossir, grandir.
Ah bien sûr, non, on a de multiples projets avec encore des nouveaux auteurs. On va faire la suite avec Marie-Laure, mais il y a encore d'autres auteurs qui vont arriver et plein d'autres livres. Et on peut aussi nous suivre sur le groupe Facebook qui est animé brillamment par Sandra, qui fait ça avec un grand talent, parce que moi je n'ai pas le temps de le faire, mais elle le fait vraiment très bien.
C'est une excellente communicante.
Exactement.
D'ailleurs, à ce propos, Dominique oublie de vous dire que le prochain court-métrage, c'est un livre de lui qui s'intitule « Destination Zone Libre ». Donc mes élèves de troisième vont être, je pense, les premiers à l'expérimenter. Livre pour la jeunesse, roman fantastique également.
Oui, aussi.
Oui, et puis Dominique avait aussi commis la lueur de vivre. Il y avait eu le poulpe spatial, mais là, oui. il y avait deux autres auteurs,
oui.
Et puis Fishman, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la bande dessinée Fishman, hein, ce petit Auxerrois qui rêve d'être un héros et qui se sent une âme de héros après avoir été mordu par un poisson radioactif.
Oui, non.
Qu'il pense radioactif.
Non.
Mais c'est très très drôle parce que on est dans le Auxerre avec Marie-Noël, le centre-ville. On voit même le Stylis,
oui.
Vieux souvenir, cette discothèque. On ne peut pas mentionner tous les titres des ouvrages. Je vous souhaite un très bon Noël et je vous remercie très chaleureusement d'être venu jusqu'à nous dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
Eh bien merci, on est vraiment ravis d'être venu et ce fut un moment super agréable. Donc merci beaucoup et à une prochaine, j'espère.
Alors très bonne
merci
fin d'année.
Merci Yannick.
Merci Sandra, merci Marie-Laure, merci Joël. Bonne fête de fin d'année à vous quatre. Samedi prochain, c'est Noël, 25 décembre. Il y aura tout de même un wagon livre à 11h, qui est un wagon livre où on pourra réentendre des extraits d'émissions avec Lucette Devine qui parle de son Noël. Et Sandra, vous le savez, Noël, c'est une nuit magique puisque c'est le rare moment où les animaux dans les écuries, dans les étables et partout ailleurs parlent.
Oui, et surtout, il ne faut pas les entendre parler, sinon peut-être ça porte malheur.
Très bien. Alors, nous laisserons les animaux parler la nuit de Noël. Moi, j'arrête de parler. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre en cette fin de matinée sur Radion. Je remercie Sandra Amani, Marie-Laure Genet, Joël et Dominique Vallet d'avoir été devant notre micro. Au revoir et à samedi prochain.